VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 23 avril 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Le Congo-Brazzaville réduit de moitié son budget à cause de la chute libre des prix du pétrole. La ville de Keno au Nigeria va envoyer 250 000 enfants de la rue dans leur village pour lutter contre le coronavirus. Plus de 1 300 détenus ont été libérés au Cameroun pour limiter le risque de propagation du Covid-19 en milieu carcéral. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, estime inacceptable toute violation des droits humains sous prétexte de pandémie. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, 12 pêcheurs sont morts noyés hier dans le naufrage d'une pirogue de 17 passagers sur le lac Albert. L'accident a eu lieu à hauteur de la chefferie Baema Nord à cause de l'état défectueux de l'embarcation et du surchargement, a indiqué Adel Alingi, administrateur du territoire de Djougou en Ituri. Plus de 1 300 détenus ont été libérés au Cameroun afin de désengorger les prisons surpeuplées et de limiter ainsi le risque de propagation du coronavirus en milieu carcéral. 608 détenus ont été libérés à Douala et 700 autres à Yaoundé, a indiqué le ministère de la Justice. Les procédures engagées par la justice ivoirienne restent en cours dans l'affaire Guillaume Soro, a déclaré le porte-parole du gouvernement ivoirien Sidi Touré. Hier, la Cour africaine des droits de l'homme a demandé à la Côte d'Ivoire de suspendre le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, candidat à la présidentielle d'octobre, et de remettre en liberté 19 de ses proches emprisonnés depuis 4 mois. En République du Congo, la chute du baril de pétrole rend difficile les opérations sanitaires. Le gouvernement a placé en priorité un fonds de 125 milliards de francs CFA pour la lutte contre la pandémie qui a fait 6 morts dans le pays. Les détails avec notre correspondant à Brazzaville, Arsène Sévrin.
La chute du prix du pétrole qui met le baril à moins de 25 dollars devrait impacter la lutte contre le Covid-19 à Brazzaville. Mais les autorités congolaises ont décidé de suspendre certains projets et de poursuivre d'autres comme la finition de 2 hôpitaux généraux, un à Brazzaville et un autre à Pointe-Noire. Malgré les temps durs, le gouvernement crée un fonds national de 125 milliards de francs CFA pour se donner les moyens nécessaires dans la lutte contre cette pandémie. Finalement, le budget du Congo-Brazzaville chute de 2117 milliards à seulement 1083 milliards de francs CFA, une baisse drastique de moins de 50%, ce qui signifie que beaucoup de projets vont tomber dans l'eau et le développement mis entre parenthèses. Ce collectif budgétaire va très prochainement être présenté au Parlement où le gouvernement détient une forte majorité pour l'adopter. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Nigeria, les autorités de Keno ont décidé d'évacuer environ 250 000 enfants pour éviter la propagation du coronavirus. Plus de détails avec Claire Moragibour.
La deuxième ville du Nigeria, avec 4 millions d'habitants, a décidé de renvoyer des centaines de milliers d'enfants dans leur village pour se protéger du Covid-19. Les premiers bus sont partis mardi avec une première vague de près de 1 600 enfants. Dans cette région majoritairement musulmane, de nombreux parents envoient leurs enfants dès l'âge de 6 ans apprendre le Coran auprès de maîtres religieux. Les cours sont gratuits, mais les enfants mendient dans les rues. Le gouvernement de Kano, qui estime le nombre d'enfants mendiants à plusieurs millions, craint une propagation du virus dans une ville comme Kano. Les États voisins de Kaduna et Nassarawa, dans le nord du Nigeria, ont déjà évacué des grandes villes des centaines d'enfants dans le cadre d'une résolution prise par 19 gouverneurs pour lutter contre la mendicité dans le contexte de crise sanitaire.
En marge d'une visioconférence sur le Covid-19, la CDAO a reconnu Oumaro Sissoko Embalo comme président de Guinée-Bissau. Son adversaire au second tour, Domingo Simoes Pereira, a toujours contesté sa victoire. La CDAO demande à M. Embalo de nommer un nouveau Premier ministre et un gouvernement avant le 22 mai et exprime la nécessité d'engager immédiatement la réforme relative à une nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum dans 6 mois. La pandémie de coronavirus a fait au moins 1243 morts en Afrique. Environ 25 800 cas d'infection ont été recensés. L'Allemagne envoie deux laboratoires mobiles au Rwanda et en Ouganda pour diagnostiquer le Covid-19. Jacques Aristide.
Ces laboratoires, initialement adaptés à certaines infections présentes dans la région, comme le virus Ebola, pourront désormais être également utilisés pour combattre le Covid-19. D'après Berlin, 9 autres laboratoires mobiles devrait être livré à 6 autres pays en Afrique de l'Est. Au Niger, l'approche du Ramadan fait craindre une flambée de violence. Des émeutes ont éclaté dans plusieurs villes contre le couvre-feu et l'interdiction des prières collectives. Près de 300 personnes ont été interpellées ces derniers jours. Le gouvernement a annoncé hier soir un assouplissement des heures du couvre-feu à Niamey. À Madagascar, des militaires font du porte-à-porte dans la capitale Antananarive pour distribuer gratuitement une tisane vantée par le président Ange Radzwell pour lutter contre la maladie. L'Afrique a été pour le moment relativement peu touchée par la pandémie, mais l'OMS a mis en garde contre des tendances inquiétantes à la hausse. Par ailleurs, dans 41 pays africains, toutes les campagnes de distribution de moustiquaires sont suspendues et l'accès à des médicaments anti-paludisme est réduit de 75%. D'après l'OMS, le bilan des morts du paludisme en Afrique subsaharienne en 2020 pourrait atteindre 769 000, c'est-à-dire deux fois plus qu'en 2018.
Par ailleurs, le président du Botswana, Mokwetsi Masisi, en quarantaine pour la deuxième fois, a reçu l'autorisation d'en sortir après avoir été testé négatif au coronavirus. Les services de santé ont également libéré de quarantaine le vice-président Slumber Tsokwane. Et en Guinée équatoriale, une infirmière qui avait été emprisonnée à Malabo pour avoir affirmé que l'hôpital de Sampaka, où sont soignés les malades du coronavirus, n'avait pas d'oxygène, a été remise en liberté. Nouria Obonondong Andem reste toutefois poursuivie pour violation de secret, un délit passible de 10 à 12 ans de prison.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au plan international, la pandémie de coronavirus a fait plus de 183 000 morts. Plus de 2 600 000 personnes sont infectées. Le point avec Abdourahmane Dia.
Près de 700 000 personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec près de 47 000 décès pour 842 000 cas. L'Italie, l'Espagne, la France et la Grande-Bretagne restent les pays les plus touchés en Europe. Le continent totalise plus de 110 000 morts. D'ailleurs, l'Union européenne se réunit ce jeudi en sommet pour un plan de relance économique alors que la pire récession de son histoire menace les pays de l'Union européenne. Des pays fortement endeuillés par la pandémie comme l'Italie et l'Espagne réclament davantage de solidarité financière, ceci alors que la Grèce a prolongé le confinement jusqu'au 4 mai. En Asie, le Vietnam, qui n'a enregistré officiellement que 268 cas et aucun mort, a décidé d'alléger les mesures de restriction. De son côté, la Chine, berceau du nouveau coronavirus, a décidé de donner 30 millions de dollars supplémentaires à l'OMS après la suspension de la contribution américaine. L'administration Trump reproche à l'organisation une mauvaise gestion de la pandémie et de n'avoir pas alerté le monde à temps sur le nouveau coronavirus.
Et au Royaume-Uni, le bilan s'est alourdi de 616 morts supplémentaires, portant à plus de 18 700 le nombre de décès dans le pays. Selon le ministère de la Santé, au moins 138 000 personnes ont été testées positives. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré inacceptable que des pays profitent de la pandémie pour violer les droits humains à l'occasion de la publication d'un rapport sur cette thématique, regrettant que la crise puisse fournir un prétexte pour adopter des mesures répressives à des fins sans rapport avec la pandémie. Il a souligné que les gouvernements doivent être transparents, réactifs et responsables. Ici aux États-Unis, les élus de la Chambre des représentants votent ce jeudi sur une nouvelle aide de 480 milliards de dollars pour soutenir l'économie américaine et les hôpitaux. Les quelques 200 parlementaires ont ouvert la séance ce matin, tous masqués, certains portant des gants. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eki Abadou.
Les négociants ivoiriens de cacao, dont le pays est le premier producteur mondial, vont bénéficier d'un appui pour faire face à la concurrence des multinationales et garantir leur compétitivité dans la filière, a annoncé mercredi le gouvernement de Côte d'Ivoire. Cet appui se présente sous forme d'une subvention de 35 francs CFA par kilo de cacao, plafonnée à 50 000 tonnes par opérateur et par campagne, selon Sidi Touré, porte-parole du gouvernement. Seules les campagnes cacaoyères 2019 à 2022 sont concernées par cette mesure. L'État ivoirien a également décidé de créer un fonds d'appui à l'investissement dans la transformation du cacao d'un montant de 10 milliards de francs CFA. Au Mali, le comité des compagnies d'assurance a versé 100 millions de francs CFA au fonds spécial Covid-19. Selon le président du comité des compagnies d'assurance du Mali, Oumar Ndoye, le monde est actuellement secoué par la pandémie et le Mali n'est pas épargné et il faut accompagner le gouvernement dans sa riposte contre la maladie. Le géant pétrolier français Total a déclaré qu'il augmentait sa participation dans un projet pétrolier ougandais dénoncé par des écologistes dans le cadre d'un accord de vente d'actifs conclu avec le britannique Tullow. Total compte payer 575 millions de dollars pour la participation de 33,33% de Tullow dans le projet du lac Albert et le projet de pipeline de pétrole brut d'Afrique de l'Est qui doit traverser la Tanzanie. Un premier paiement de 500 millions de dollars est prévu et le reste lorsque les partenaires prendront la décision finale d'investissement pour lancer le projet.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le comité de normalisation de la Fédération comorienne de football entend pousser ses joueurs vers la professionnalisation à travers une ouverture vers l'extérieur. C'est l'idée de sa présidente Kaniza Ibrahim.
Pour pouvoir aider les clubs comoriens, c'est la première des choses, c'est déjà de la formation. On peut dire qu'aujourd'hui le football comorien n'est pas au niveau top professionnel, mais je pense qu'en mobilisant, enfin en ayant accès à des formations et en mobilisant des fonds pour pouvoir leur permettre de se déplacer et acquérir de l'expérience vers l'extérieur, ce serait l'idéal. Donc je pense qu'on va plus mettre l'accent sur ça.
Kaniza Ibrahim, présidente du comité de normalisation de la Fédération comorienne de football, joint par Élisée Mpatine, notre correspondant au Bénin. C'est fini entre Michael Sarpong et le Rayon Sport. Le joueur ghanéen est accusé d'avoir insulté le président du club rwandais, Sadat Munyakazi, qui l'a licencié. Auparavant, une note du Rayon Sport demandait au joueur d'expliquer les motifs de ses propos injurieux tenus à l'encontre de son président, ce que Sarpong n'a pas pu faire. Avant son départ, le club exige du Ghanéen le remboursement d'une dette de 612 dollars, représentant les frais d'achat d'un billet de voyage retour de Norvège. En Europe, le championnat d'Allemagne de football est prêt à reprendre le 9 mai. Bien sûr, si les autorités donnent leur feu vert, la Bundesliga est le premier des grands championnats européens. Tous à l'arrêt depuis la mi-mars, a acté un calendrier de reprise sans spectateurs, compatible avec la volonté de l'UEFA de terminer les championnats nationaux et d'achever les Coupes d'Europe de clubs cet été. La Bundesliga a indiqué avoir obtenu des garanties pour le versement des droits télé d'une valeur de 300 millions d'euros, assurant ainsi les liquidités des clubs professionnels jusqu'au 30 juin. La volonté de disputer les 9 journées restantes reste néanmoins suspendue à l'accord des responsables politiques. Athlétisme, pour finir, les meetings de la Ligue de Diamants prévus à Eugene, ici aux États-Unis le 7 juin et à Paris le 13 juin sont reportés. Ces deux reports s'ajoutent à ceux des 6 premières étapes de la Ligue de Diamants, le circuit majeur de l'athlétisme mondial dont le coup d'envoi devrait être donné le 17 avril à Doha, au Qatar. En ce qui concerne le meeting d'Oslo, programmé le 11 juin, les organisateurs de la Ligue de Diamants ont précisé dans leur communiqué qu'une compétition alternative d'athlétisme se déroulerait à la date prévue, sans plus de précision. En Angleterre, le début formel de la Ligue de Diamants est repoussé au 4 juillet.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Le Niger a franchi la barre des 600 personnes atteintes du Covid-19 avec 20 décès. Récemment, des manifestations contre le couvre-feu et la fermeture des mosquées ont eu lieu à travers le pays et les observateurs craignent que la tension monte davantage avec le mois de Ramadan qui s'annonce, alors que le Conseil islamique appelle à prier chez soi. Un reportage d'Abdul Razak Idrissa.
C'est en principe ce vendredi que les musulmans du Niger entament le jeûne du mois de Ramadan, un mois de pénitence et de grande dévotion. Il se trouve seulement qu'une des mesures prises pour enrayer la propagation de la maladie du coronavirus interdit le regroupement et donc les prières collectives. La majorité des mosquées est fermée et les fidèles s'interrogent sur comment bien profiter de ce mois béni de Ramadan lorsqu'ils n'ont pas accès aux mosquées.
C'est difficile pour nous, pour les populations, de rester à la maison, de jeûner, sans aller faire les prières surrogatoires qu'on fait de façon collective. Parce que c'est difficile de faire ça seul. Il y a déjà les tarawis qu'on fait, maintenant il y a aussi les 10 derniers jours où les gens pratiquement ils passent la nuit dans les mosquées. Donc nous voulons que le gouvernement tienne compte de cet état de fait vraiment, parce que c'est très important pour nous et pour la population en général.
En réponse à ces interrogations, le Conseil islamique du Niger, la plus haute instance religieuse du pays, a donné le ton. Les musulmans doivent faire davantage preuve d'endurance.
Le Conseil islamique du Niger élargit au regroupement des associations islamiques et oulémas du Niger demande à toute la population du Niger de faire preuve d'endurance et de s'abstenir de tout attroupement dans le seul but de se protéger et de protéger les autres. En effet, nous avons le regret de rappeler qu'aussi longtemps que durera la chaîne de contamination des maladies coronavirus, toutes les mesures préventives décidées seront maintenues et renforcées.
Pour le journaliste Hassan Boukar, faire respecter cette mesure va être un grand défi pour les pouvoirs publics.
C'est facile de dire au Conseil islamique de prendre telle ou telle mesure. Mais ce ne sont pas peut-être les personnes les plus écoutées. On a déjà du mal à convaincre les gens qu'on peut empêcher les prières collectives. Aller à la mosquée ou se mettre à 6 à 7 devant une maison à prier, c'est quand même un réflexe dans ce pays. Du coup, c'est déjà difficile. Pendant le Ramadan, à mon avis, la première chose que le pouvoir public doit faire, c'est de repousser l'heure du début du couvre-feu. Il faut que ça aille à 22h ou 23h minimum, à mon avis, parce que quand même, pendant le Ramadan, la vie s'anime toute la nuit. La journée est une période déjà morte. Mais aussi, quand on regarde un peu le fait que les marchés soient toujours ouverts, l'intensité des déplacements des personnes, des activités pendant la journée, quelquefois on peut aussi s'interroger à quoi correspond ce couvre-feu de 19h à 6h du matin. Le virus ne circule pas davantage la nuit que le jour.
Les autorités de la ville de Niamey annonceront ce jeudi si elles prorogent ou pas les mesures de couvre-feu et d'isolement de la capitale dont les premiers délais arrivent à échéance vendredi. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Mali, les musulmans s'apprêtent à vivre un mois de Ramadan particulier avec les restrictions pour empêcher la propagation du coronavirus. Les fidèles jeûnent durant la journée et sont appelés à faire des prières surérogatoires. Les nafilas se font après la rupture du jeûne, donc correspondent à l'entrée en vigueur du couvre-feu de 21h à 5h du matin. Les prières collectives dans les mosquées ne sont pas interdites à Bamako, mais comment faire avec le couvre-feu? Un élément de réponse dans le reportage de Kassim Traoré.
À l'instar de la Oumma islamique, le Mali s'apprête à débuter le mois de Ramadan demain vendredi ou le samedi prochain. Durant le mois de Ramadan, les musulmans pratiquants sont appelés à respecter un jeûne du lever au coucher du soleil, et ce pendant un cycle lunaire.
Et qui dit mois de Ramadan dit encore dépenses supplémentaires, comme nous le savons dans notre pays. Et très généralement, beaucoup de commerçants font du mois de Ramadan un moment pour encore augmenter les prix s'enflamment et rendent la vie encore plus difficile pour les Maliens.
Les fidèles musulmans s'apprêtent à vivre un mois de Ramadan très particulier en raison du coronavirus.
Couvre-feu ainsi que les mois de Ramadan, ça dit que c'est deux choses qui peuvent se gérer ensemble très bien, à condition que les gens aient donc la bonne foi et la bonne idée donc d'essayer donc de faire tout leur planning en fonction donc de l'heure arrêtée par le gouvernement. Bon, certes, le gouvernement aussi peut faire un effort, essayer donc de reculer un peu l'heure donc de couvre-feu pour que les gens puissent donc finir avec tout ce qui est comme besoin donc en question donc de l'islam.
Au Mali, l'État a instauré le couvre-feu de 21h à 5h du matin, mais les mosquées sont restées ouvertes. Avec le Ramadan, cette situation sera très difficile à gérer. Django Koulibaly, journaliste.
À défaut de prendre une décision pour fermer les mosquées, je pense qu'on doit décaler le couvre-feu et ramener ça aux environs de 22h, 23h. Parce qu'à 29h déjà, ça a trouvé qu'on n'a pas fini de prier. Il faudrait qu'on s'assoie, qu'on en discute et s'accorder à trouver une solution à ce problème avant que ça dégénère. Parce que si ça continue comme ça, moi je pense que ça va dégénérer.
Avec le respect du couvre-feu, plusieurs jeunes sont en chômage. Ces jeunes ne parlent pas du mois de Ramadan.
D'autres n'ont même plus d'activité parce que licenciés, voire empêchés de s'exercer, parler de ceux qui travaillent très généralement la nuit. Ils ont des difficultés aujourd'hui à joindre leurs débouts. S'il va falloir que ceux-ci, encore avec les jeunes, se retrouvent dans une situation de confinement parce qu'il y a le Covid-19, et il faut se dire que le moment n'est pas du tout opportun pour les Maliens cette année d'aller aux jeunes.
Pour d'autres jeunes musulmans, le Ramadan est le bon moment de repos.
Je pense pas qu'après donc avoir donc fait le jeûne, on va sortir pour aller donc se promener en ville après la rupture donc du jeûne. Donc je pense pas que ça c'est l'idéal. L'idéal est que une fois que vous arrivez donc à terme donc de la journée et que vous avez rompu donc le jeûne, vous restez donc à la maison. C'est un moment de se reposer après les prières. Moi je pense que le couvre-feu donc et le mois de Ramadan, ça peut marcher très bien ensemble. Il n'y a pas à avoir de problème.
Pour le moment, le gouvernement malien n'a pas changé les heures du couvre-feu de 21h à 5h du matin et l'état d'urgence sanitaire reste en vigueur. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Rodowoko, le plus grand marché de Ouagadougou au Burkina Faso, a été rouvert lundi après 3 semaines de fermeture. Les autorités craignent qu'il ne soit un foyer de propagation de la pandémie de Covid-19. Mais après réouverture, les affaires ne marcheraient plus aussi bien qu'avant, selon des commerçants estimant que le nouveau dispositif sécuritaire aux entrées dissuade les clients. Le reportage de notre correspondant dans la capitale burkinabé, Lamine Traoré.
À l'une des entrées du plus grand marché de Ouagadougou, Rodowoko, 8h. Souleymane Sabadogo, vendeur de chaussures depuis 5 ans dans ce marché, doit aujourd'hui se soumettre à certaines conditions avant d'avoir accès à son magasin. En plus du nombre important de policiers, des agents, tous des volontaires en gilet orange avec des insignes Stop Coronavirus, doivent veiller au respect strict des mesures. Lavage de mains, prise de température, un peu de gel hydroalcoolique, le port du masque et le tour est joué. Souleymane peut regagner sa boutique. Ses voisins, c'est de loin qu'il va devoir les saluer.
Ici, là, bon, ça va. Comme il y a maladie, ils ont dit qu'on doit rentrer ici, on doit porter casse-nez et puis on lave les mains. Donc ils ont dit, si tu ne portes pas casse-nez, tu ne rentres pas ici.
Le vendeur de chaussures a dû se tourner les pouces pendant 3 semaines à la maison.
C'est ça, là, ça a été dur.
Souleymane Sabadogo.
Il y a des marchandises qui doivent, il y a des modèles même qui demandent. Donc 2 semaines, 3 semaines comme ça là, on a beaucoup perdu. C'est pas facile.
Depuis l'ouverture du marché, les affaires sont au point mort, disent les commerçants.
Ça va, mais ça ne va pas parce qu'il n'y a pas de client encore.
Le vendeur de chaussures.
Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au marché. Donc il y a d'autres même qui pensent que au marché là, il y a une maladie là même, c'est ici.
À quelques pas de Souleymane Sabadogo, Oumarou Guigma, cet étudiant est aussi commerçant. Les mesures sont drastiques selon lui.
Les choses ne vont pas depuis la réouverture. Le problème qui se pose, c'est quoi? Ce sont les conditions, les mesures même vraiment. Les mesures qui sont prises, moi je pense que ça renvoie directement au supermarché. Vous voyez, quand c'est un supermarché, chacun est dans son carré. Mais quand on parle de marché, il y a l'influence. Tant qu'il n'y a pas le frottement même entre les gens, on ne sent pas que c'est un marché. Le marché est vide, il n'y a même pas de clients. On est là, on s'assoit, on cause.
Les conditions sont dures. On ne peut pas vendre, les clients même ça ne rentre pas.
Awa Ilboudo est aussi commerçante.
On ne peut pas exposer les marchandises même pour vendre. Mais si on ne peut pas exposer, non, c'est trop dur. Il n'a qu'à faire un peu. Nous, commerçants, là aussi, va gagner pour manger, pour nourrir notre enfant. Sinon, c'est dur.
Rodouoko, le plus grand marché de la capitale, sinon du pays, fonctionne sous cette forme depuis lundi. Un marché qui permet de faire vivre 500 000 ménages, selon la municipalité. Rodouoko est le marché test. 39 autres marchés de la capitale attendent d'être rouverts, si toutefois les mesures barrières et l'ensemble des consignes sont respectées par les commerçants, selon les autorités. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Avec vous, cette semaine dans Washington Forum, nous nous penchons sur les médias et l'accès à l'information durant cette pandémie du COVID-19. Au moment où la majorité de la population est confinée, Internet devient plus que jamais essentiel dans le travail des journalistes et pour un public avide d'informations crédibles en cette période de crise sanitaire. Comment les médias s'organisent-ils pour continuer à informer le public? Comment aider les populations à identifier les fake news? Les gouvernements doivent-ils rendre Internet plus accessible, surtout en cette période de crise? Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi 23 avril à 19h, temps universel sur VOA.
Le président américain Donald Trump a signé un décret hier qui suspend temporairement la délivrance de cartes vertes afin de protéger les emplois en pleine crise liée au coronavirus. Depuis le début des restrictions, des millions d'Américains ont perdu leur travail. Pour une analyse sur cette décision, Bagassi Koura a joint maître Joseph Fa, avocat traitant de questions d'immigration dans le Maryland.
Théoriquement, il peut le faire parce que nous sommes dans un état d'urgence. Les mesures d'immigration relèvent complètement du pouvoir exécutif. La mise en œuvre des procédures d'immigration relève du pouvoir exécutif, puisque ce n'est que pour une durée limitée de 62 jours. Ça veut dire que même si c'était illégal, les possibilités de recours contentieux, je pense ici à l'option de l'injonction et d'autres formes de mesures d'urgence, ne peuvent pas vraiment aboutir avant l'expiration de 60 jours et jusqu'à ce que peut-être le juge n'ait rendu une décision au fond pour peut-être suspendre la décision, les 60 jours seraient expirés. Ça, c'est du point de vue théorique. D'un point de vue purement pratique, vous savez, avec le Covid, on a suspendu les ambassades, on a suspendu toutes les procédures d'immigration. De fait, pas officiellement, mais il n'y a aucun bureau qui travaille. Si vous regardez sur le site de USCIS, il vous dit que tous les bureaux sont fermés, on ne reçoit personne, y compris pour les interviews.
Ça n'a pas vraiment d'effet, quoi.
Ça n'a pas d'effet. Moi, j'estime que c'est une mesure de distraction. C'est simplement pour faire appel à sa base d'électeurs. Écoutez, mes chers amis, je pense que j'ai l'intérêt de l'Amérique en tête.
Si moi j'étais à Yaoundé ou à Ouagadougou en train de préparer mes dossiers pour immigrer peut-être chez mon époux, mon épouse aux États-Unis, est-ce que c'est juste un retardement ou est-ce que je dois craindre que ça n'aurait plus lieu?
La décision de Trump n'a aucun effet sur votre possibilité de voyager pour retrouver votre épouse ou votre famille partant de Ouaga ou de Yaoundé pour arriver aux États-Unis. D'un point de vue théorique, ça, la décision de Trump, au contraire, même, la décision prévoit une exception pour ce genre de cas. Les familles, les épouses, les enfants peuvent toujours voyager. Les immigrants travailleurs peuvent voyager. Ça, ça ne concerne que ceux qui sont à l'extérieur des États-Unis.
On sait que l'an passé, les gens, ont, comme chaque année, ont joué à la carte verte. Et cette mesure concerne la carte verte. Est-ce qu'ils doivent craindre que les résultats ne soient annulés ou ne sortent pas du tout?
Non, ils ne doivent pas craindre que les résultats ne soient pas annulés. Ça n'annule pas les procédures, ça suspend les procédures. Il ne faut pas une différence entre les deux. Les résultats de la loterie américaine sortent en mai. Mm-hmm. Nous sommes en avril. Or, l'expiration, c'est dans 60 jours. Ça a été signé hier, le 22 avril. 60 jours sera le 22 juin. Et les notifications pour la loterie américaine, c'est au mois de mai. Donc, je ne vois pas comment est-ce que ça pourrait affecter quoi que ce soit. Il ne s'agit pas d'une annulation, mais simplement d'une suspension des procédures.
Maître Joseph Fa est avocat dans le Maryland, ici aux États-Unis. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.